Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Pivot et Urbania. Au programme, en Ouganda, les femmes en première ligne de crise des déchets, comment ça va la question dont personne ne veut entendre la vraie réponse, et les droits des femmes sont négligés en Haïti. Bonne écoute.
En Ouganda, les femmes en première ligne de la crise des déchets. Un texte de Roméo Mokafiko, paru le 17 mai 2022 dans le magazine Pivot. Dans la décharge de Kitezi, comme dans le reste du pays, les femmes sont au premier rang face aux défis résultant de la gestion des déchets et du recyclage. Précarité de l'emploi, pollution et dangerosité des matériaux. Une situation qui génère de nombreuses inégalités. L'Ouganda est confronté depuis quelques années à une crise des déchets dont le volume a considérablement augmenté. En première ligne de cette crise, les femmes, qui représentent 80% des collecteurs-collectrices de déchets dans la capitale, Kampala. Dans la décharge de Kitezi, l'une des plus grandes d'Afrique, des silhouettes déambulent sur le flanc d'une montagne de déchets haute de plusieurs dizaines de mètres. Parmi elles, Amina Mukasa, qui s'y rend depuis plusieurs années pour ramasser les tonnes d'ordures qui s'y déversent chaque jour. Travaillant à son compte, cette Ougandaise récupère quotidiennement divers objets dans de grands sacs qu'elle revend à l'entrée du terrain à des entrepreneurs chargés d'emporter le produit jusqu'au centre de récupération. Ici, comme dans les nombreuses décharges que compte la capitale, le tri s'effectue à la main. « La vie est difficile », raconte-t-elle. Lorsque le soleil brille, ça nous brûle. Lorsqu'il pleut, l'eau nous empoisonne. Mais c'est le seul travail que nous ayons et ça paie le loyer. Dans cette décharge, 78% du millier de travailleurs présents sur place sont des femmes. Les collecteurs-collectrices ramassent et trient du plastique, du métal, du carton et parfois du verre 10 heures par jour. Si la ville dispose d'un système de collecte municipale et d'une flotte de camions, ces derniers ont tendance à concentrer leurs efforts dans certains quartiers, souvent les plus aisés. L'organisme public chargé d'assurer le service, KCCA, reconnaît que le volume de déchets générés dépasse la capacité de collecte dans la limite du budget public. Avec moins de la moitié des déchets correctement collectés à Kampala, les autorités estiment que 60% des 1300 tonnes produites quotidiennement finissent dans le caniveau, favorisant la création de décharges sauvages. À Kitezi, comme dans le reste du pays, les femmes sont au premier rang face aux défis résultant de la gestion des déchets et du recyclage, précarité de l'emploi, pollution et dangerosité des matériaux. Une situation qui génère de nombreuses inégalités. Le total annuel des déchets générés à Kampala est passé de 230 000 tonnes en 2011 à 480 000 tonnes en 2017, ce qui correspond à la croissance démographique observée sur la même période dans la région, plus 53%. La décharge de Kitezi continue d'être utilisée au-delà de sa capacité, si bien qu'elle se retrouve dans des conditions similaires à une décharge à ciel ouvert, même si elle a été construite comme une décharge sanitaire. Un système inégalitaire. À la décharge, Namata Resti est la responsable des femmes membres de l'Association des jeunes collecteurs de Kitezi, qui regroupe 350 personnes. Pour elle, les femmes collectrices sont avant tout victimes d'inégalités d'ordre financier. Ici, une femme gagne en moyenne 7000 shillings, 2,50 $ par jour en revendant sa collecte aux commerçants qui collaborent avec les usines de recyclage, explique la jeune femme. Un homme, lui, peut faire plus de 10 000 car il est plus fort physiquement, alors que les femmes plus âgées ne perçoivent pas plus de 30 000 par semaine. Namata cite également les responsabilités familiales qui pèsent sur les mères en très grand nombre dans le milieu. Pour Namata, les hommes n'assument pas toujours leurs responsabilités, ce qui expliquerait le nombre important de mères célibataires au sein de la décharge. Quand toi ou ton enfant tombe malade, ça devient très compliqué car tu ne peux plus travailler et tu n'as pas de quoi l'emmener à l'hôpital, dit-elle. On doit souvent emprunter quelques milliers de shillings aux associations pour être pris en charge. Il existe pourtant, d'après elle, des solutions simples à mettre en place, dont la mise en place de zones de récolte exclusivement destinées aux femmes. Pour améliorer notre qualité de vie, on pourrait par exemple créer des marchés réservés aux femmes ou aux femmes âgées, dit-elle. En effet, d'après Namata, cette division protégerait ces dernières, souvent victimes des mouvements de foule dus à la présence de machinerie lourde sur le terrain. Les machines que l'on retrouve sur notre lieu de travail sont très dangereuses et il y a souvent des bousculades. Un point de vue que partage Patrick Sirouo, responsable de l'Association des jeunes de Kitezi. KCCA ne nous donne rien, on travaille à notre propre risque, affirme-t-il, précisant que les bottes élégantes de protection sont à la charge du travailleur. L'entreprise publique KCCA, qui opère dans l'ensemble du pays, ne semble pourtant pas disposée à entendre les revendications de ses collaborateurs-collaboratrices, qu'ils soient masculins ou féminins, faute de budget et de communication entre les parties. Ils veulent nous voir partir pour des raisons de sécurité, s'offusque Luke Mugerwa, le président du comité de la décharge. Mais c'est un problème pour nous, car c'est le seul moyen de survivre pour beaucoup. Pour améliorer nos conditions, il faudrait un véritable changement de mentalité. Un système moins efficace. Une étude menée en 2021 par l'entreprise Alcott, spécialisée dans les initiatives de développement durable, a révélé que les problèmes les plus importants des secteurs de la gestion des déchets et du recyclage des plastiques en Ouganda sont aggravés par les inégalités entre les sexes. Ils sont notamment abordés les défis de volume de déchets, de taux de recyclage et des inégalités de genre face à l'emploi. Les réformes du secteur des déchets ne sont efficaces et durables que si elles adoptent une perspective de genre et s'engagent à garantir l'égalité des sexes. Peut-on y lire? Les experts s'interrogent entre autres sur la capacité des entreprises tenues par des femmes à obtenir des financements, sur l'égal accès aux machines et aux équipements ou encore sur l'égal accès aux formations. Pour Karim Buyana, membre du laboratoire d'intervention urbaine de l'Université Makerere, cité dans l'étude, la dynamique de genre existante est déterminante pour qualifier la capacité des hommes et des femmes à évoluer dans le secteur. Il souligne que les inégalités observables sur le terrain ont une conséquence sur la représentation des femmes. Elles ont plus de difficultés à accéder à d'autres secteurs d'activité en raison de l'image que leur confère la société et sont victimes des stéréotypes liés au rang des tâches ménagères. En conséquence, la plupart des femmes travaillant à Kitezi ont déclaré souffrir d'exclusion sociale de la part de leur famille et leur cercle d'amis les plus proches. L'espoir des discriminations positives. Les organismes à l'initiative de l'étude préconisent ainsi des actions de discrimination positive qui seraient dirigées par des associations sociales de femmes du secteur. Le but est d'aider les femmes à surmonter les disparités socio-économiques et la féminisation de la pauvreté. Pour Karim Buyana, le recyclage et le domaine de la construction peuvent en ce sens être une opportunité pour les femmes recycleuses de la capitale qui ont souvent un faible niveau d'éducation. Il estime que des projets bien menés pourraient les aider à développer un éventail de compétences. En collaborant directement avec des entreprises locales, elles pourraient bénéficier d'un revenu stable et accéder à une formation continue et transférable à d'autres corps de métier. Suivant cette logique, des initiatives ont vu le jour ces dernières années à Kampala, mettant en valeur le rôle des femmes recycleuses de la capitale. Le Block Plus Construction System est un exemple de projet de recyclage de plastique conçu pour créer du travail pour les femmes dans les communautés locales. En formant les collectrices, trieuses et vendeuses, l'objectif de l'entreprise est de créer 50 000 emplois en 5 ans. Autre initiative, l'entreprise Reform Africa produit des sacs à partir d'éléments recyclés issus des décharges de Kampala. Sa fondatrice, Faith Aweko, se dit proche des enjeux féministes et écologiques dans le pays. Ça nous permet de verser des salaires en achetant le plastique que les membres de la communauté nous fournissent. Le rapport d'Alcott préconise la multiplication de ces projets en Ouganda et des investissements publics et privés dans des initiatives de recyclage portées par des femmes. Il conclut en affirmant que « l'économie circulaire du plastique en Ouganda passera par les femmes ». Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. C'était « En Ouganda, les femmes en première ligne de la crise des déchets », un texte de Roméo Mocafico, paru le 17 mai 2022 dans le magazine Pivot. Je rappelle que nous lisons « En Ouganda, les femmes en première ligne de la crise des déchets », un texte de Roméo Mocafico, paru le 17 mai 2022 dans le magazine Pivot.
Comment ça va? La question dont personne ne veut entendre la vraie réponse. Un texte de Malia Kunko paru le 22 août 2022 dans le magazine Urbania. Une interrogation authentique devenue simple formule de courtoisie. Vous est-il déjà arrivé de prendre un « comment ça va » un peu trop à cœur? De répondre en déballant tout à la personne se trouvant en face de vous, de la très bonne salade grecque du dîner à votre peur existentielle de ce qui pourrait se trouver après la mort. Puis, de vous résoudre à une brutale évidence. Et si elle ne voulait pas réellement savoir comment j'allais? Si vous vous reconnaissez, rassurez-vous. En 26 années de socialisation, j'ai encore cette déstabilisante manie. Et tout comme Rose-Aimée Autonne, T. Morin s'interrogeait sur l'usage du « bonjour » dans les transports en commun, je me pose aujourd'hui cette question. Que vaut réellement un « comment ça va » dans nos rapports sociaux modernes? Une zone d'ombre que Francis Boilard, professeur de sociologie au cégep Édouard Montpetit, et Jacques Hamel, sociologue spécialiste de la jeunesse, m'ont aidé à éclaircir. Une question sans réponse. Le « comment ça va » que nous connaissons et pratiquons tous et toutes a troqué son authenticité réelle contre le statut de « formule de courtoisie », selon Francis Boilard. La chorégraphie verbale qu'il décrit est toujours la même. On répond « ça va », puis on continue notre chemin. Est-ce une si mauvaise chose que ça? Sur le plan de l'harmonie de groupe, pas nécessairement. Par exemple, un « comment ça va » posé à la suite du simple « bonjour » habituel rendra cette salutation moins distante et nous fera apparaître comme plus sympathique et ouvert ou ouverte auprès des autres. Cette question permettra également de fluidifier certaines interactions sociales qui, sans cela, sembleraient trop brusques. Ainsi, dans un courriel, un « comment ça va » sera souvent utilisé comme une transition douce vers la requête du paragraphe suivant. Reste que cette phrase porte en elle une certaine solitude, car elle n'invite jamais, ou presque, de réponse réelle. C'est une formule qui relève un peu de l'automatisme, du réflexe, explique Jacques Hamel. On ne veut pas aller plus loin et on ne veut pas connaître de réponse. Un caractère machinal qui se retrouve lorsque notre interlocuteur ou interlocutrice répond parfois « très bien, merci », sans même que nous ayons suivi son « comment ça va » par un « bien, et toi ?». L'échange prend alors une tournure scénarisée d'avance, comme si ces mots ne représentaient plus rien d'autre qu'une ponctuation sociale pour faire conversation. Dans cette course à la brièveté, Jacques Hamel voit aussi un symptôme de la technologie et d'Internet. Avec les réseaux sociaux et les téléphones intelligents, il faut aller rapidement, souligne-t-il. On s'envoie des textos, c'est très court. Donc quand on pose la question « comment ça va ?», on s'attend à une réponse aussi courte. on n'est pas intéressé à s'arrêter pour entendre la réponse. Tout ceci favorise donc à amputer cette formule de sa signification première. Une réponse sans vérité. Et une question vidée de son sens ne peut induire qu'une réponse vidée de sa sincérité. On va toujours bien et surtout, on ne va jamais mal. À la racine de cela, l'expression « comment ça va elle-même » qui, pour Francis Bollard, renferme une injonction au bonheur. Ce qui est intéressant avec cette formule, c'est qu'elle n'est pas neutre, dévoile-t-il. Elle reflète le devoir d'être heureux qui est très présent dans notre culture. Répondre à la négative représenterait alors une rupture inconfortable dans la conversation. S'ajoute aussi le contexte d'énonciation de la phrase qui déterminera le degré d'authenticité du reste de l'échange. Souvent, quand on se fait poser ces interrogations-là, on est en public, souligne Francis Boillard. Et en public, on porte notre masque de personne qui joue son rôle dans la société. Répondre réellement à un « comment ça va » reviendrait à sortir de ce rôle-là pour plonger dans son « moi » plus profond, celui qui est différent du « moi » social, qu'on est tenu de maintenir quand on est en public. Et cette discussion de sourds découle une nouvelle solitude double. Car l'un ou l'une pose une question qui débouchera sur une conversation en surface dont ne résultera pas de connexion durable, aucune information de substance n'ayant été échangée. Et l'autre ne trouvera pas une oreille suffisamment attentive pour écouter ces tracas réels et préférera la sécurité d'une réponse confortable à la déception de ne pas être entendu. Autrui et ses limites. Mais toute oreille ne se doit pas d'être attentive, et c'est une vérité avec laquelle il faut faire la paix. On ne peut blâmer un ou une collègue qui entendrait « Mes parents m'ont annoncé leur divorce à 8h30 devant la machine à café et resteraient sans voix, pris ou prise de court. » Il ne serait pas juste non plus de faire ce que l'on appelle du « trauma dumping », déversement de traumatisme, soit partager des pensées, des sentiments et de l'énergie traumatisant sur une personne sans méfiance, et ce, de manière non sollicitée et non préparée, telle que le définit USA Today. De plus, une réponse creuse est souvent préférable à une réponse creuse donnée en connaissance de cause. Pour le comprendre, il suffit de voir le même « Tu es déprimé? Alors bois de l'eau » qui met en lumière les solutions absurdes de légèreté que peuvent suggérer ceux et celles qui ne connaissent rien aux réalités de la dépression. De cette même façon, s'entendre dire « Ah, bon, ça va aller, hein ?» en réponse à un épanchement sur le divorce de nos parents ne ferait qu'accroître notre solitude et notre vulnérabilité, car la personne face à nous n'aura pas eu les paroles rassurantes que nous attendions. Sauf qu'elle n'était pas tenue de les avoir, surtout sans préparation préalable. Et ça aussi, il faut le comprendre. À ce stade, nous pourrions donc nous demander « Est-ce si impossible de donner et d'obtenir une réponse sincère à un « comment ça va » de nos jours ?» Non, et heureusement. Il nous faut toutefois trouver les bonnes personnes avec qui partager cette part de nous-mêmes. Il y a des contextes sociaux qui sont plus propices à donner ou à entendre une vraie réponse à cette question, développe Francis Boillard. Ça dépend aussi de qui la pose, qui la reçoit et du niveau de proximité avec la personne. Le comprendre nous permet de chérir et cultiver toutes les relations précieuses au sein desquelles nous pouvons pleinement partager nos vulnérabilités. Trouver la bonne clé. Malgré ses défauts d'usage, un « comment ça va » possède tout de même le mérite d'essayer. C'est quand même une formule qui reflète un désir de connecter avec l'autre, même si c'est à un niveau superficiel. Il ne faut pas négliger ça, rappelle Francis Boillard. Ça participe au lien social qui est nécessaire pour vivre ensemble. D'autres seront plus radicaux, comme le média CNBC pour qui ces trois mots sont non seulement réducteurs, mais aussi les plus inutiles du monde de la communication. Ils leur préfèrent toutes les questions plus précises qui peuvent être posées juste après et qui favorisent une plus profonde connexion. Ouvrez les yeux avant d'ouvrir la bouche, conseille CNBC. Trouvez quelque chose sur lequel vous concentrez dans votre environnement, comme l'œuvre d'art sur le mur, un gadget original ou une photo de famille. Il y aura forcément quelque chose qui déclenchera des small talk et qui aidera à mener la conversation vers des questions de suivi unique. L'authenticité émotionnelle n'a donc pas totalement disparu de nos rapports humains. Il suffit de trouver la bonne parole pour y accéder. C'était « Comment ça va ?» la question dont personne ne veut entendre la vraie réponse. Un texte de Malia Kunku paru le 22 août 2022 dans le magazine Urbania.
Les droits des femmes sont négligés en Haïti. Un texte de Josiane Desjardins, paru le 13 novembre 2021 dans le magazine Pivot. Ça empire, il faut le dire, estime l'avocate Vita Pierre. Le contexte d'insécurité, devenu particulièrement préoccupant en raison de l'emprise des bandes armées, rend les femmes plus vulnérables. La lutte pour les droits des femmes s'opère à contre-courant en Haïti, dans ce pays où elles sont encore quasi absentes dans la sphère politique. En 2016, seules 3 femmes ont été élues députées sur 118, mais toujours très nombreuses au rang des victimes de violences. Pour l'avocate Vita Pierre, la société a relégué aux oubliettes ses droits, négligés plus que jamais au milieu des crises qui sévissent. L'insécurité, une menace directe. Les droits des femmes, ça empire, il faut le dire, estime celle qui a entamé une maîtrise en études de genre à l'Université Paris 8 en septembre dernier. Le contexte d'insécurité, devenu particulièrement préoccupant à Port-au-Prince en raison de l'emprise des bandes armées, rend les femmes plus vulnérables. On a recensé beaucoup de femmes victimes des conflits entre les gangs qui vivent dans des espaces où elles ne sont toujours pas en sécurité, où elles sont exposées à des violences sexuelles, énumère Vita Pierre. À l'été 2021, plus de 15 000 citoyens de Martissant, un quartier populaire de la capitale, ont dû fuir leur maison sous la menace des gangs armés, rapporte le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Plusieurs familles se retrouvent depuis entassées dans des camps. Les femmes et jeunes filles y sont en proie aux agressions de toutes sortes, notamment au viol. Que peuvent-elles faire? Elles ont peur de relever l'identité de leur agresseur et elles n'ont d'autre choix que de rester dans ce milieu à encaisser des violences. Failles juridiques et politiques. Avant de quitter le pays pour ses études supérieures, Vita Pierre travaillait pour un cabinet à Port-au-Prince où elle a représenté plusieurs victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. L'un des grands obstacles à sa pratique, c'est qu'il n'existe encore aucune loi spécifique en matière de violences faites aux femmes. Citation, ellipse, « La spécificité des violences subies par les femmes n'est nullement prise en compte », fin de citation, déplore Avocats sans frontières Canada dans un mémoire présenté à la Commission intra-américaine des droits de l'homme en 2019. Le Code pénal, qui date de 1835, a toutefois été revu en 2005 en ce qui a trait aux agressions sexuelles. Le décret stipule que le coupable doit être puni d'une peine de 10 ans de travaux forcés. Toutefois, il ne s'applique pas aux violences conjugales. Autre embûche de taille, les victimes subissent souvent des pressions extérieures de la part des parents, des amis ou encore d'un prêtre pour ne pas porter plainte contre leur conjoint violent. Dans certains cas, la victime est prise dans un schéma de dépendance financière et économique, le mari étant le pilier économique, souligne Vita Pierre. En plus des obstacles qui pèsent sur les victimes, il y a les problèmes d'intimidation que rencontrent les avocats des plaignantes dans les couloirs de la justice, voire devant des juges qui ne sont pas sensibilisés aux violences de genre. Même celles qui défendent les victimes ne sont pas épargnées, à tous les niveaux, témoigne l'avocate. C'est une société où le patriarcat se défend vigoureusement, de l'école en passant par l'Église. Par ailleurs, l'État n'est pas sur la bonne voie pour répondre aux objectifs de la politique nationale d'égalité femmes-hommes 2014-2034. L'une des premières étapes du gouvernement de Jovenel Moïse, le président haïtien assassiné à l'été 2021, était de former un comité interministériel en 2020. Mais en vain. Ça n'a jamais été fait et pourtant ce n'était qu'un début, déplore Madame Pierre. Cette dernière constate l'inapplicabilité de cette politique devant l'absence d'une réelle volonté de la mettre en place. Cet aspect a également été soulevé dans une étude réalisée par l'Université d'Ottawa l'an dernier. Les professeurs Stephen Baranihi et Hannah Champ ont mis en lumière, citation, « la faible mise en œuvre de cette politique et d'en tirer des leçons stratégiques, notamment par rapport à l'importance de l'agentivité hétérogène dans un contexte de résistance patriarcale et de crise récurrente. » Fin de citation. Malgré tout, le féminisme doit devenir une affaire d'État, défend Vita Pierre. De lourdes contraintes empêchent encore l'intégration socio-économique et politique des femmes au même titre que les hommes. Les injustices sont grandes, mais ses convictions le sont aussi. D'où son nouveau projet d'étude axé sur le genre. J'ai choisi le féminisme comme mode de vie. Je ne me laisse pas décourager, au contraire. C'est un choix et je vais prendre toutes les actions nécessaires pour y arriver. Notre société doit être basée sur l'égalité des chances, des sexes et la non-discrimination. C'était « Les droits des femmes sont négligés en Haïti », un texte de Josiane Desjardins, paru le 13 novembre 2021 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.fusezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.